toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien, figurez-vous, c'est la 50e. Eh bien, on est très content d'être là et d'être encore là surtout. Et pour cette 50e, c'est le pur fruit du hasard, je vous l'assure. J'ai un plateau 100% féminin, c'est une première aussi dans Multijoueur et j'en suis très très fière avec le retour d'Elisa. Comment ça va, Elisa ?
Ça va, et toi ?
Ouais, maintenant t'es à l'aise.
Ouais, c'est la maison.
C'est la maison, hein ? T'arrêtes de faire ta timide. Bon, voilà, journaliste chez Journal du Geek.
Exact.
Ça se passe toujours bien, t'as plein de choses à faire.
Oui, toujours. C'est très dense.
C'est très dense. Et face à toi, ma petite nouvelle de la semaine.
Bonjour.
Marion, comment ça va ?
Ça va très bien, et toi ?
Journaliste gaming un peu partout.
C'est ça, pigiste.
Avec ta petite newsletter.
C'est ça, Manette et Chouquette.
J'adore le nom. Je devais te dire, j'adore le nom.
C'est parce que Chocolatine, c'est trop clivant, du coup.
Ah ouais, Chocolatine, tu t'embarquais dans un truc dangereux, là.
C'est je ça. Comprends.
Eh bien, avec ces demoiselles, pour une fois, je suis bien entourée, je suis contente, je suis pas la seule caution féminine de l'émission. On va parler d'actu et on va surtout se faire un petit plaisir, parler des jeux qui font du bien, des jeux détente, des jeux pas forcément faciles, mais qu'on aime bien parce que justement, c'est un petit peu notre petite Chouquette à nous. Mais on va commencer avec l'actu à chaud parce qu'il y a quand même de l'actu. Et on va parler d'un sujet rapidement mais un peu intéressant. Il s'est passé quelque chose cette semaine. Embracer Group, qu'on nous annonçait comme un géant européen du jeu vidéo, un groupe qui était en train d'acheter des studios à gogo qui comptaient plus d'une centaine de studios et 17 000 employés, commence à faire depuis un an de la vente à la découpe. Après avoir laissé filer Saber Interactive, ils viennent de laisser filer surtout Gearbox. Et là, ça rigole moins, parce que Gearbox, c'est Borderlands, c'est des jeux très marquants, achetés 1,3 milliard de dollars, revendus 460 millions, c'est pas la meilleure affaire du siècle.
Emballé, c'est pesé.
Voilà, c'est la meilleure affaire pour Take-Two, qui vient de le racheter, ça tombe bien, c'est eux qui éditaient un peu Borderlands. Elisa, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Embracer alors ? On pensait que ça allait être un géant ?
On pensait que ça allait être un géant. Et puis, finalement, depuis l'année dernière, c'est en train de s'écrouler un petit peu. Et puis, c'est des petites parties qui tombent à chaque fois, mais des petites parties qui comptent, quoi. C'est un peu dramatique, ouais.
Alors, rappelons, Saber, c'était eux qui étaient sur le remake, notamment, de Star Wars...
KOTOR, ouais.
Sur le fan de KOTOR. Night of the Old Republic, pour ceux qui ne savent pas, pour le remake. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que l'avenir, on s'est longtemps dit, Marion, l'avenir du jeu vidéo, c'est de faire des regroupements comme ça. On voyait que Xbox, évidemment, achetait beaucoup de studios.
Oui.
Ça allait porter. Là, finalement, Embracer, c'est un peu un coup dans l'eau. Ils ont Dead Island 2 qui a marché.
Quand même, oui.
C'était pas mal.
Mais il faut dire que le symbole est quand même fort et puis ça inquiète encore un petit peu plus le marché du jeu vidéo qui fait des bénéfices, hein, tout va bien, mais qui... Donc, il revend ses studios et puis qu'il licencie à foison aussi.
Ils avaient commencé à licencier. On sait qu'ils ont annulé des jeux, dont le prochain Deus Ex. Et ça, franchement, j'étais très triste.
Ouais.
pour ceux qui ne savent pas, Embracer Group, c'est aussi le groupe qui avait racheté Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal, notamment, qui avait donc tous ces sujets, tous ces studios et surtout des grosses licences dont on attendait beaucoup. Un retour de Tomb Raider. Ils nous avaient parlé du Seigneur des Anneaux. Finalement, on ne verra rien. Mais enfin, surtout, Gearbox, ils l'ont acheté il y a 2 ans, n'a pas sorti un jeu. Enfin, si, Tiny Wonderlands, mais c'était pas non plus le...
C'était pas le jeu le plus ambitieux qu'ils auraient pu sortir avec la franchise Borderlands, quoi.
Alors, je voudrais vous parler de Lars Wingerfors. Savez-vous qui c'est ?
Alors, j'imagine que c'est le fondateur.
Le fondateur. Donc, ce charmant monsieur suédois, parce que c'est un groupe suédois, j'ai oublié de le préciser, en fait, il a une stratégie depuis qu'il est tout minot, parce qu'il a commencé à 13 ans. Il a eu la bonne idée de racheter des comics d'occasion pour les revendre. Eh, malin hein, déjà. Et donc, il s'est fait rapidement de l'argent de poche, on va dire. À 16 ans, il a construit Nordic Games, qui était basé sur le même principe, mais en rachetant des jeux vidéo d'occasion pour les revendre. Pareil, en quelques années, il s'est fait un peu de pécule, racheté à la fin des années 90, donc il a à peine 20 ans, ce monsieur, un petit peu plus de 20 ans. 7 millions d'euros par gameplay. Stockholm, qui est un peu l'équivalent des magasins Games, en gros, si vous voulez, en boutique physique. Lui, il faisait de la vente en ligne, il avait commencé à faire quelques petites boutiques. Eh bien, en fait, il applique ce même principe de je rachète d'occasion et j'essaye de retaper pour revendre. Il avait racheté THQ, donc le fameux studio, au moment où ça n'allait pas fort. Il l'a rappelé THQ Nordic. C'est devenu Embracer Group après changement de nom et rachat. Donc, est-ce que cette stratégie de j'achète un peu au moment où c'est dans le creux de la vague, en essayant d'en faire quelque chose et je revends, c'est quoi le signal envoyé en fait à l'industrie ? Méfiez-vous, Est-ce que c'est une solution pérenne, en fait? 115 studios, il avait quand même, là.
C'est un pari dangereux, surtout, je pense. Quand on mise sur des... Bah là, il a misé... Le groupe a un peu misé sur des licences fortes avec des studios qui étaient vachement connus. Bah, les studios occidentaux de Square Enix. Ils ont racheté aussi les droits d'exploitation en jeux vidéo de la licence Seigneur des Anneaux. Mm. C'est pas rien, c'est des licences fortes. Mais de vouloir les faire repartir, c'est souvent un pari dangereux. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Même Microsoft n'y arrive pas. Hein. Par exemple, quand ils ont racheté Bethesda, tous les jeux qu'ils ont sortis depuis, ça a plus ou moins été un flop.
Redfall, pas terrible.
Donc, il faut faire très attention sur ce genre d'investissement, je pense. Et là, ils sont en train de s'en mordre les doigts.
Mais surtout, ils ont eu un problème qui est la cause de tout leur déboire. Ils devaient avoir 2 milliards de dollars d'un fonds saoudien, qui est le Savvy Gaming Group, qui finalement s'est désisté. Mmh. Et depuis, c'est la débandade. Donc, Gearbox reprend son indépendance. Pas vraiment, puisqu'ils vont chez Take-Two.
Oui, ils vont quand même chez
Take-Two. Mais
tout.
Au moins, oui. Ils ont été... que Saber a été beaucoup plus intelligent faire ça. Donc voilà, c'était l'actu de la semaine sur laquelle je voulais juste qu'on s'arrête, parce que ça en dit long aussi sur l'état du marché des licenciements. Parce qu'il faut des jeux quand même, mine de rien. Et quand on n'a plus de gens, on ne peut pas faire des jeux.
C'est ça.
C'était la conclusion de tout ça. Bon, allez, on va se redonner quand même un peu de baume au cœur. Je veux qu'on parle, les filles, des jeux cosy. Il y a une grande tendance à ces jeux. Marion, comment est-ce que tu définirais ça ?
Alors, le jeu cosy, ou wholesome, on l'appelle comme ça parfois, c'est un jeu tout doux, c'est un jeu qui fait des câlins, c'est un jeu parfois sans objectif, sans défi apparent, qu'on peut prendre comme on le souhaite et qui nous fait passer un bon moment. Globalement, je le définirais comme ça. Souvent, c'est associé à des graphismes un petit peu mignons, des couleurs un peu pastel, mais pas forcément en fait. Voilà, le jeu cosy, c'est un jeu qui fait du bien et qui prend pas la tête.
On a un déclencheur, quelque chose, qui explique... C'est pas récent, les petits jeux tranquillous, c'était souvent des jeux de simulation des années 80-90.
Oui,
c'est quoi, c'est l'effet Covid et Animal Crossing
en 2000. Oui, c'est ça. Je pense qu'en 2020, Animal Crossing a suffisamment fait mouche, et tout le monde voit un petit peu de quoi il retourne. Ce qui est un déclencheur particulier, je pense que c'est des phases dans le quotidien aussi. On n'est pas toujours sur du Dark Souls.
Dark Souls ou jeu cosy, choisissez
votre camp. L'entre-deux n'existe pas. Non, je ne sais pas s'il y a un déclic particulier ou un contexte, mais c'est toujours bienvenu dans un quotidien parfois un petit peu compliqué. Ouais. Peut-être que ça parle plus aux adultes.
Les jeux cosy, alors ça c'était ma question. Est-ce que c'est un truc de jeune adulte à adulte plus ou...
Oh, je pense que oui. Hein. Je pense que le fait qu'Animal Crossing soit arrivé en plein Covid, plein confinement, y a beaucoup de gens qui ont joué et qui se sont mis aux jeux vidéo pour Animal Crossing, notamment des jeunes adultes qui étaient confinés chez eux, peut-être pour la première fois de leur vie, qui ne savaient pas trop quoi faire, qu'il y en avait beaucoup qui étaient au chômage partiel. Et en fait, je pense que ça a ouvert la voie à toutes les personnes qui... n'avaient pas pris le temps, en dehors de leur travail, de peut-être tester les jeux vidéo et de se dire, finalement, il y a peut-être des trucs qui me correspondent, moi.
Est-ce qu'il faut forcément que ce soit un jeu un peu casual, un peu familial ? Ou pas forcément ?
Ça dépend comment tu définis le
jeu. Est-ce qu'il faut que ce soit un jeu forcément simple ? En fait, c'est ça.
Je pense que les mécaniques doivent être assez simples, sans être simplistes, mais pour pas justement prendre trop d'espace disque dans le cerveau. Quoi.
Il faut laisser du temps voilà. Disponible, de cerveau
exactement,
disponible.
Exactement. Derrière toi, il y a des images d'Unpacking, qui est un jeu où on défait des cartons.
J'adore.
Ça pourrait être, c'est la pire tâche au monde quand on déménage. Enfin, moi, je déteste ça, mais ce jeu rend la chose agréable et poétique. Donc, c'est un peu... Ouais, c'est le... jeu cosy absolu là.
Alors j'avoue qu'Unpacking c'est un jeu qui a fait l'unanimité quand je vous ai demandé ce qu'on pouvait mettre. Moi j'ai adoré Unpacking, déjà parce que ça m'a rassurée sur le fait que les gens font aussi mal les cartons que moi et rangent à peu près ça n'importe comment aussi. Il n'y a rien à faire à part déballer des cartons et suivre une histoire, l'évolution d'une histoire. C'est vraiment la définition même du jeu wholesome.
C'est une des définitions, et puis ça permet au jeu de s'adresser à un très très large public. C'est typiquement le genre de jeu que je recommanderais à mes beaux-parents, qui n'ont jamais touché à une manette. Mais les choses sont tellement simples en fait à analyser, à comprendre, l'objectif il est clair, et l'histoire elle est racontée rien que par l'environnement. Donc c'est quelque chose, ce sont des jeux vidéo qui sont moins abrupts quand on commence aussi, c'est pas mal.
Ça change des jeux de tir et tout. On a l'impression que c'est toujours des jeux... Alors, j'allais dire, autour de l'agriculture, du farming,
le retour à la terre.
De la gestion. Alors, là, c'est Minami Lane. Ça, ah. Ça, je sais que t'as beaucoup aimé,
c'est
Marion.
Mes chouchous, mes chouchous,
c'est
mes chouchous.
Très beau, je connais pas pour le coup.
Comment ça, on va te faire découvrir un jeu?
Mais oui, mais ah, c'est très beau, je vais l'acheter.
Ça, pour le coup, c'est un tout petit jeu. Alors vas-y, toi, tu racontes très bien parce qu'en plus, t'as eu les créateurs.
Oui, j'ai interviewé les créateurs, Doute et Bibloop. Alors, ce sont deux créateurs qui sont dans les Landes, indépendants, du coup. Ils ont fait ce jeu en 6 mois. Ils s'étaient donné l'objectif de développer vite et bien pour juste préserver eux-mêmes, déjà, et pour avoir des objectifs réalisables. Le jeu est un gros succès, hein, je crois qu'ils sont à plus de 50 000 ventes, ce qui est franchement
pour
énorme,
eux, énorme
pour leur, ouais, leur scope. C'est un petit jeu où on construit une rue à la japonaise, avec des bubble tea, des magasins, des restaurants de ramen, et puis des habitations. Et le but, c'est juste de faire quelque chose de très mignon, où les habitants sont heureux, et on peut caresser les chats.
Et on peut. Alors j'aime bien, c'est bien défini. On peut ramasser les ordures aussi.
Oui.
C'est très japonais. Ah, tu ne connaissais pas?
Non,
Elisa,
mais j'ai beaucoup envie d'y jouer. Là.
Alors c'est vraiment la simplicité qu'on attend d'un jeu. Tu, peux, oui. Voilà, tu peux choisir ton toit, ta toiture. Enfin, t'as des petites missions à remplir de temps en temps, mais c'est,
oui, y a un lot de
c'est assez
missions.
Sommaire. J'avoue, mais il y a beaucoup de jeux. Alors, je rigolais quand je dis du farming, mais parce que effet Animal Crossing, on a eu l'impression derrière que et puis peut-être effet aussi Stardew Valley.
Oui,
oui, surtout Stardew Valley,
je pense aussi. Il fallait faire. Faé, c'était pareil, c'était un peu magique, mais on faisait du farming. Il y avait, je ne sais pas. Pourquoi c'est des activités qu'on ferait pas dans la réalité?
Parce que c'est salissant.
C'est
le jardinage. Et moi, j'ai essayé, tout meurt. Donc ça marche mieux en jeu vidéo.
Moi, j'ai joué à Garden Life. J'ai pas du tout la main verte et le jeu l'a compris. J'avais des plantes partout, c'était n'importe quoi. Mais Garden Life, je vous le conseille parce que ça, au niveau jeu cosy, on se pose ça et on plante bien. Des rosiers, c'est pas mal. Elisa, un jeu qui pour toi est l'expression même de ça?
De quoi?
De ce côté bien-être, bien. Un côté cosy, mais tu vois, parce que là, on voit des images. Pour ceux qui nous regardent, on voit Stardew Valley où on doit
cosy
gérer une ferme.
Bah après, c'est peut-être du bien-être que pour moi, mais A Little to the Left.
Ah, je te rejoins là-dessus.
Et ça va peut-être rejoindre Unpacking sur le côté rangement. Mais en gros, c'est un jeu où on doit assembler les choses dans un certain ordre logique ou ranger dans des boîtes de manière très, très organisée. Et parfois, il y a plusieurs solutions à chaque niveau, donc les trier par couleur ou les trier par forme. Ou, voilà. Enfin, c'est des genres de mini-casse-tête, on va dire. Des genres de mini-casse-tête. Et franchement, moi, ça me vide l'esprit. Mais alors, par contre, je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, ça, c'est le type de jeu, c'est leur hantise de devoir ranger. De devoir ranger, c'est vraiment... Donc je pense que le cosy aussi s'adapte aux gens, je pense.
Alors, j'avoue que... tu connais ça ou pas?
Oui.
Little to the Left?
Oui, oui.
Je pense qu'on rejoint un peu l'idée de ce que tu racontais, Marion, des wholesome games, de ces cosy games. J'ai parcouru le Game Pass en me disant, j'ai envie de me faire un petit jeu sans prétention. J'avoue que le visuel du jeu m'a attirée. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. C'est un jeu qui est en fait sorti l'année dernière ou ouais. Même peut-être avant. C'est un jeu qui est assez vieux, mais qui vient d'arriver dans le Game Pass. Et j'y ai passé des heures à trier des boîtes à outils, à ranger des cure-dents, en gros. Je schématise, mais c'est un peu
ça.
Moi, je suis bordélique comme pas permis, normalement. Donc, c'est pas du tout un jeu pour moi, mais comme Unpacking. Et je trouve que, ça, en fait, ça fait du bien. Et souvent, tu as la musique qui va avec, qui t'accompagne. Est-ce que c'est pas vraiment aussi les jeux qu'on cherche comme ça, quand on se dit à quoi je jouerais?
Si, moi je te juge pas. Par exemple, en parcourant le Game Pass, moi je suis tombée amoureuse de Power Wash Simulator.
Donc, alors pareil, moi j'ai 80 heures dessus, donc tu sais, voilà. Je ne vais rien te dire. J'ai acheté l'extension Retour vers le futur, hein, donc laisse tomber.
Je sais pas si je l'ai cherché, mais en tout cas, lui m'a trouvé, c'est sûr. C'est des petits jeux qui s'offrent à nous, c'est des petites pépites auxquelles on peut jouer pendant des heures, mais effectivement, des petites sessions de jeu de 20 minutes suffisent aussi parfois.
C'est ça.
Et dans un quotidien qui est quand même vachement chargé. Ça fait plaisir. Voilà. On n'est pas obligé de se poser pendant une heure et demie pour savourer une histoire de bout en bout ou se focus sur un jeu de rôle qui est très gourmand en énergie, en histoire. Là, on peut y aller et puis pas réfléchir.
Il y a un côté bienveillance dans ces jeux. Il y a un côté que moi, il me frappe souvent, c'est visuellement, ça ne cherche pas à être le plus beau jeu de la Terre. Souvent, c'est même très rétro. Est-ce que ça fait partie aussi... On essaye d'aller vers quelque chose d'un peu ancien pour se rassurer.
Quelque chose d'épuré, je dirais. Quelque chose de moins chargé aussi. Je pense que ça joue sur le côté cosy. Le côté un petit peu rassurant, réconfortant. Tout ce qui est simple, en fait. Les règles et le graphisme, ça marche bien.
Il n'y a pas de méchanceté dans les jeux cosy. Règle de base, on n'a pas le droit d'être méchant et bienveillant et méchant et tranquille.
Sauf dans les films.
Méchant et tranquille, j'imagine mal le combo.
Non, mais je sais pas, j'ai envie de pousser des gens, j'ai envie de mettre le bazar.
Ah, mais tu peux, tu as. Il y a le truc, le jeu avec la loi, là, Untitled Goose Game.
Ah,
ça, c'est hyper drôle.
Et ça, c'est drôle.
Ça, c'est hyper drôle. Et pourtant, t'es une oie qui va chiquer les gens, qui leur pique des trucs.
C'est la méchanceté, c'est un petit peu taquin, quoi.
Ouais.
C'est
pas de la méchanceté pure.
Dans les jeux que vous m'avez. Quand je vous ai demandé votre petite liste, on a eu Full of Cats. Et ça, j'avoue que je ne connaissais pas.
Ça, c'est ma petite lubie du moment. En fait, je me suis acheté le bundle. De tous les jeux du développeur où en fait ils disent Castle Full of Cats, Building Full of Cats, Arcade aussi. Et en fait, c'est que des environnements qui sont dessinés, vraiment c'est un dessin quoi, 2D. Et on doit trouver les petits chats qui se cachent dans l'image. Et il y en a plein. Et il y en a qui sont cachés dans des endroits. Donc il faut ouvrir les placards, les machins. Et juste ça me détend. Je peux jouer à ça pendant 2 heures comme je peux y jouer 10 minutes. C'est fou. J'adore.
Marion, ton jeu doudou ?
Oh ben en ce moment, c'est Minami Lane. Donc, je lance ça.
Ah ouais,
Minami Lane, dont on a parlé, ou Capybara Spa, qui m'a aidé à une période de ma vie où j'étais un peu.
Ah, je connaissais pas celui-là.
Ben, c'est un jeu où on prend des capybaras et on les met dans des spas. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Bon, il faut parfois leur mettre une petite fleur sur la tête parce que c'est mignon, machin. Mais voilà, rien de foufou. Il faut enlever les mauvaises herbes. Toujours le jardinage.
Mais tu vois, on est jardinage, farming.
Toujours.
C'est simple dans les jeux, alors que dans la vraie vie, il faut mettre ses équipements, il faut sortir, ça prend du temps. Là,
comme le Power Wash, quoi.
Là, c'est qu'en fait, ça t'enlève toute la charge mentale de le faire dans la vraie vie, de devoir mettre l'équipement, de dire tu vas être mouillé ou tu vas avoir froid ou.
Et pour capybara spa, c'est plus simple de trouver des capybaras en pixel.
Bah oui, bah évidemment.
C'est vrai. Alors, le jeu comme ça, Wholesome Cozy, ça aide aussi parfois à aborder des sujets un peu plus sérieux. Et je pensais notamment à des jeux qui ont l'air comme ça très cool. On a eu Spiritfarer, moi j'ai trouvé magnifique, qui est quand même un jeu où on se fait le transport des âmes des morts et on doit construire son bateau pour les transporter.
C'est ça.
C'est quand même, quand on y réfléchit 2 secondes, pas le jeu le plus funky dans l'idée de la Terre. Il y avait Gris qui était sur le deuil aussi. Est-ce que ça aussi, c'est un contexte qui est favorable ?
C'est une autre manière de raconter une histoire. Et c'est pas mal pour aborder des... Pour pas aller de front sur des thématiques compliquées. Ça parlait du deuil, ça pourrait être pathos, ça pourrait être déprimant. Et effectivement, dans Spiritfarer, c'est doux. On prend ça bien, on accompagne les morts vers la vie d'après, en gros.
Sans que ce soit dark.
C'est pas dark. Personne n'est vraiment triste. Enfin, c'est juste comme ça. C'est la vie. Et je pense que oui, les jeux Wholesome sont pas mal pour aborder des thématiques fortes qui pourraient être plombantes.
T'es d'accord avec ça, Elisa ?
Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que, comme tu disais, le fait d'épurer complètement le visuel du jeu et aussi son gameplay, d'avoir des mécaniques assez simples, ça permet derrière de faire passer des messages de manière peut-être plus impactante que dans n'importe quel jeu.
On avait Dordogne, qui moi était ma petite perle de l'année dernière. Dordogne qui donc envoie son héroïne dans les pas de sa grand-mère qui est décédée. Donc retour en enfance 30 ans plus tôt en Dordogne. Est-ce que c'est l'essence même de ce genre de jeu ? Parce que c'est pas très compliqué, soyons clairs, Dordogne. Oui. Sauf si on est un complétiste et qu'on fait 100%, peut-être un peu plus. Mais il y avait une esthétique très aquarelle, il y avait la petite musique, c'est une expression vraiment ? Ça répond à la définition ?
Bon, en tout cas, ça y correspond, oui, complètement. Oui, c'est beau, c'est doux, la musique, elle nous accompagne sans jamais heurter les oreilles, c'est émouvant. Enfin, moi, j'ai pleuré en jouant à Dordogne. Au bout de la première heure, moi. J'ai pas attendu, non.
Oui, c'est la Madeleine de Proust, c'est la deux chevaux,
moi,
ça, à mon avis.
Je pleure souvent devant les jeux vidéo, et Dordogne est particulièrement efficace, vraiment.
Tu avais fait Dordogne, Elisa ?
Oui, je l'ai fait. Et franchement, visuellement, c'est ça qui m'a attirée peut-être plus avant l'histoire, avant de commencer. Et finalement, on s'attache beaucoup. On s'attache énormément au personnage dans sa version enfant ou adulte. Voilà. Mais c'est un jeu qui, je pense, regroupe toutes les caractéristiques du cozy game dont on a parlé, c'est-à-dire le message, le visuel épuré, un peu original, parce que cette aquarelle, on la voit pas souvent, et des mécaniques simples, et en même temps des personnages attachants. Enfin, il a vraiment tout, quoi.
Il répond. Alors, on avait beaucoup parlé de Chia aussi, mais qui était un jeu plus narratif. Donc, qui avait des phases très cosy sur l'environnement. Est-ce qu'il répondait complètement aux critères ou qu'à moitié, c'était presque plus un jeu? Alors, je veux dire un jeu, c'est pas très sympa parce que ça voudrait dire que les autres sont pas des jeux. Mais est-ce que c'était...
Il y avait plus d'aventures, je trouve. Dans Chia, c'était un peu plus challengeant sur certains trucs. Il y avait des quêtes, ce qu'on n'a pas forcément dans les cozy games.
On est d'accord que normalement, il n'y a pas trop de...
Il n'y a pas trop d'objectifs précis, définis, pointés. Quoi. Après, les joueurs peuvent se fixer eux-mêmes leurs objectifs, mais c'est ça aussi qui est sympa avec le cozy game. Donc, Chia était plus porté aventure quand même.
Par rapport à Dordogne, oui.
Mais je comprends que ce soit le jeu cosy de certains joueurs. Aucun Chia. Problème. Ouais. Ah oui.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche vraiment? Alors qu'on se dit, en gros, on a le droit à Call of Duty ou des jeux cosy. Je pars dans les extrêmes exprès. Est-ce que ce sont les mêmes joueurs? Est-ce que ça peut être potentiellement les mêmes joueurs?
Oh oui. Oui, j'en suis la preuve vivante. Oui, bien sûr, ça peut être les mêmes joueurs. Sans doute que ce genre-là explose plus en ce moment parce que les joueurs ont grandi. Enfin, la moyenne d'âge du joueur, on se rapproche plus de 40 ans qu'autre chose. Donc, comme on l'a déjà dit, ce sont des jeux qui nécessitent moins de temps aussi et qui apportent du bien-être. Donc, je connais peu de joueurs qui ne recherchent pas ça. En ce moment, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai plus de 30 ans.
Elisa ?
Moi, je pense pas que ce soit nécessairement les mêmes. Je pense que ça peut être les mêmes joueurs, mais dans le fond, je pense qu'ils sont différents. Je pense que les cozy games ont explosé vraiment quand le jeu vidéo s'est beaucoup popularisé. Parce que bon, il y a toujours eu des jeux, je veux dire, on a toujours eu nos mamans qui jouaient à Candy Crush sur téléphone. Bon, ça voilà, c'est des jeux.
C'est cozy game, Candy Crush ?
Ça pourrait, pourquoi pas, c'est bien le cosy de quelqu'un. Mais je pense que c'est surtout cette démocratisation du jeu vers de nouveaux publics, et notamment les jeunes adultes, comme on disait, qui a fait que c'est ce genre-là aussi qui domine, mais qui est très présent dans le monde du gaming. Maintenant plus qu'avant, et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de joueurs, de nouveaux joueurs sur ces jeux-là plutôt que des anciens qui étaient avant sur Call of ou FIFA ou que sais-je.
Ouais, je vois ce que tu dis. Pour finir sur la partie des cozy games, un jeu à recommander, à faire, le jeu, ton jeu cozy. Elisa, t'as deux secondes, parce que Marion, je sais ce qu'elle va me dire.
Bah non, je sais plus, moi.
C'est vrai? Non, mais
tu vas m'aider, du coup.
Tu vas pas me dire Mina Minail?
Ah bah si, mais j'en ai parlé déjà trois fois, il y en a plein d'autres.
Un jeu absolument à faire, qui vous relaxe. C'est moi qui commence. Alors, moi, j'aurais dit Unpacking, parce que j'avoue que la musique et tout, et après, j'ai un autre jeu, mais qui a presque un but étape par étape, qui est Maquette, qui pour moi qui est mon cozy game absolu, avec une des meilleures bandes son du jeu vidéo actuellement, et qui est mon petit refuge cozy game à moi.
J'ai pensé à Townscaper aussi, qui est un jeu de construction où en fait on n'a pas à réfléchir à ce qu'on construit, il suffit de rajouter des blocs les uns à côté des autres et ça se fait tout seul. Et c'est magnifique, on peut faire des choses extraordinaires.
C'est vrai.
Et c'est pareil, ça se lance et hop, voilà.
C'est pas mal. Elisa ?
Moi je dirais Sticky Business.
Ah, ton fameux, elle nous en a déjà parlé.
D'accord. Non, Sticky Business qui est un jeu de simulation. En fait, on ouvre son petit magasin de stickers, enfin sa petite boutique en ligne de stickers, et donc on peut les créer, les imprimer, les envoyer à des clients qui en demandent, etc. Et en fait, on voit le business grandir. Et en fait, moi ce que je trouve génial, c'est que tu peux télécharger tes stickers en PDF et puis les imprimer vraiment.
Mais je veux jouer.
Il y a plein de recommandations. Et bien voilà, c'était une recommandation Cozy Game. Maintenant que vous êtes tous bien relax, on va passer rapido, parce qu'on est complètement en retard, à la partie à quoi on joue, parce que on va continuer entre filles. C'est complètement involontaire quand même, c'est le programme d'émission. Mais on ne pouvait pas y couper, c'était le troisième jeu sorti fin mars qui comptait. On a parlé des deux premiers. Voici donc venir Princess Peach Showtime.
Yeah.
L'arrivée de Princess Peach en tant qu'héroïne réellement chez Nintendo.
Jeu.
Marion, à toi de jouer.
Eh ben, c'est pas mal.
Merci Marion.
Voilà, c'est tout pour moi. Non, c'est bien. Alors, grosso modo, on parle de l'histoire.
Vas-y, tu peux.
Princess Peach va au théâtre. parce que c'est Princess Peach et le théâtre, c'est vachement chouette. Mais malheureusement, le théâtre se fait attaquer par une entité maléfique et les théâtrins, donc les petits personnages qui jouent les rôles normalement dans les pièces, vont être capturés. Princess Peach va donc endosser des rôles dans chacune des pièces, comme différents tableaux, différents niveaux qui succèdent, et récupérer du coup toutes les petites énergies qu'il faut pour remettre le théâtre en place.
Toutes les petites étincelles. Voilà. Donc Princess Peach, elle devient pâtissière, épéiste, sirène, ninja, kung-fu. Ma préférée, c'est Peach Kung-fu.
Elle est géniale.
Parce qu'elle est géniale, c'est n'importe quoi. Voilà, elle devient cow-boy, elle devient patineuse. Patineuse, pas mal aussi. Tu as fait aussi, Elisa ?
Ouais, j'y ai joué un petit peu.
Alors ?
Et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Bon, après, c'était pas une révolution non plus, mais c'était, ça faisait du bien d'avoir Peach en perso principal et puis de l'avoir dans plein plein de rôles. J'ai trouvé que c'était, ça faisait un peu suite au film Barbie qui était sorti l'année dernière.
On est dans un mood. On va croire que cette émission est féministe aujourd'hui. pas du tout. Mais on est dans un mood, en effet, où il fallait donner un moment à Peach un peu plus de... Dans le film, on l'a un peu vu venir déjà. Dans
oui,
le film,
déjà,
Mario,
oui.
Qu'elle s'émancipait un peu. Et là... Eh bien, moi, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que Peach est là, toute seule. On ne l'enferme pas dans l'univers de Super Mario. Il n'y a aucune référence. Alors, évidemment, on reconnaît un peu le style. C'est le style Nintendo, je dirais plus. J'ai eu un peu peur au début que ce soit Super Mario Galaxy version Peach, parce qu'elle lance son nœud pour repousser ses ennemis. J'ai dit, ah non, ils ne vont pas nous refaire le coup de la casquette. Ça, c'était bien. Est-ce que tu as des points négatifs à soulever ? Moi, j'en ai.
Oui, moi, j'en ai. Alors, si on commence par les points négatifs, je trouve que la rythmique du jeu est un petit peu hachée, justement sur ces successions de niveaux. Ça fait plus mini-jeu, presque.
On est d'accord.
Mais ceci étant, pour des jeunes joueurs, c'est pas mal, parce que les sessions peuvent être courtes. En famille, c'est chouette. Et du coup, ça peut aussi ne pas lasser les enfants.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Elisa ?
Peut-être que les niveaux, parfois, pas tous, déjà, ils ne sont pas tous égaux en termes de difficulté, je trouve. Ouais. Et puis, il y en a qui sont un peu trop simplistes. Après, ça s'adresse peut-être à des jeunes joueurs, plutôt.
Mmh. Eh ben alors, moi, ça, c'est mon reproche. C'est que je trouve que le jeu, globalement, est très sympa. Bon, Peach Pâtissière, on aurait pu s'en passer. Parce que je trouve que ça, pour le coup, c'est un peu cucul à praline. Je trouve que c'est un peu trop simple. Et alors, il y a un ou deux niveaux dont le boss final est un peu... Il faut comprendre la mécanique. Mais globalement, je pense qu'elle aurait mérité au moins une proposition de différence de niveau.
De difficulté.
C'est vraiment un jeu pour les nouveaux joueurs, je trouve, pour les jeunes joueurs. Les énigmes, quand elle est en Sherlock Holmes, là...
Oui.
Oh là là, merci Captain Obvious, parfois.
Hein. C'est ça,
oh là là, tu n'as pas trouvé, je vais te donner directement la réponse.
Oui.
C'est un peu le seul truc, le seul reproche, c'est que je trouve que, OK, c'est Peach, elle est cool, elle a l'air gentille. Elle a le droit d'avoir un peu de difficulté aussi. Certains niveaux sont quand même...
C'est ça, c'est pas un...
Ras des pâquerettes.
On dirait presque... On pourrait presque dire que c'est un jeu pour filles, pour les filles qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo.
Voilà, donc
oui, un peu de la version traditionnelle d'une fille, quoi.
C'est un peu ça. Donc, comme on est sympa, on lui en fait plein de costumes parce qu'elle peut être ce qu'elle veut, un peu comme Barbie à son époque.
Un peu comme... C'est très Magical Girl, c'est très Sailor Moon.
Ouais.
Donc, il y a ce côté-là. Je pense que ça s'adresse vraiment aux jeunes filles.
On est d'accord.
Ouais. Mais les jeunes filles aiment la difficulté aussi.
Mais voilà, les jeunes filles aussi, elles ont envie de castagner avec des niveaux de difficulté différents. C'est pour ça que moi, mes préférés, c'est Peach Ninja et Peach Kung Fu. Que je vous recommande chaudement.
Non, c'est vrai que c'est très sympa, mais c'est très girly, quoi.
C'est très girly. Ouais.
C'est très girly. Après, c'est une première.
On peut lui changer sa robe.
Oui, c'est vrai.
Ah, et ouais, c'est tant qu'à faire.
Yael Tailleur qui est là pour changer la couleur de la robe.
Yael Tailleur qui récupère les nœuds.
C'est vrai.
Non, mais voilà. Mais sinon, c'est très sympa. T'as préféré?
Moi, j'aimais bien le détective quand même. Même si les énigmes auraient mérité d'être plus corsées, justement, je me dis que ça pourrait faire le pont avec un jeu plus adulte.
Un peu plus adulte.
Ouais.
Elisa ?
La patineuse. J'aime bien aimer la patineuse.
Elle est cute, la patineuse, ouais. J'avoue. On vire Peach Pâtissière, on est d'accord ?
Oui.
Hein ? Je garde les gâteaux.
Et voilà, ce sera le mot de la fin. C'est disponible sur Nintendo Switch, Princess Peach Showtime, le premier, enfin non pas le premier, mais le premier gros vrai jeu où elle est un peu aux commandes. Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues. Elisa, on te retrouve sur le Journal du Geek.
Ouais, exact.
Et sur ta chaîne.
Sur Twitch aussi, depuis pas longtemps.
Et voilà, il s'y met. Marion,
on
pareil.
Retrouve sur les réseaux sociaux, un peu partout.
On peut te lire un peu partout et on s'inscrit à ta newsletter.
Manette et chouquette.
Et voilà, évidemment. Et nous, eh bien, on se retrouve partout aussi, en podcast, sur YouTube, sur le site Tech & Co et en multi-rediffusion sur la chaîne Tech & Co. On vous a donné plein d'idées, de petits jeux cosy sympas. Voilà, vous les retrouverez sur le site aussi avec les recommandations de ces demoiselles. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien et prenez votre temps.